C'est vous? Oui, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Il est écrit sur le programme « Résister dans la publicité ». Je ne savais pas quel était le titre de ma conférence, alors je vais essayer quand même de fourguer sous ce titre tout ce que j'avais prévu de dire par ailleurs, sachant qu'il ne s'agit pas simplement de résister dans la publicité, comme si elle n'était qu'à l'extérieur de nous-mêmes, mais il s'agit de résister à la publicité en tant qu'elle est déjà à l'intérieur de nous-mêmes, en tant qu'elle a mis à l'intérieur de nous-mêmes un certain nombre de schémas tout faits sur lesquels je reviendrai. Par rapport au phénomène de la publicité, on m'entend là, ça va ? Bon, il y a plusieurs modes d'approche, tellement le phénomène est complexe. Il y a celui du consommateur pressé, qui est irrité ou qui est séduit, ou qui regarde le rapport qualité-prix ou le rapport entre la publicité et tel ou tel objet ou tel service, et qui, en général, a raison de le faire, mais est limité par le fait qu'il ne regarde les publicités que isolément. Telle publicité, telle autre publicité. C'est un point de vue qui se défend, mais si l'on veut vraiment essayer d'atteindre le cœur du problème et la nécessité de la résistance, il faut aller au-delà. Vous avez ensuite, bien entendu, l'approche des publicitaires. Alors là, c'est tout un langage particulier, une novlangue terroriste et stratégique, militaire même, puisque vous avez des mots comme créneau, campagne, stratégie, score d'impact, support, etc., etc., qui sont le jargon habituel de personnes dont le métier consiste à essayer de vous conquérir par la ruse ou par la domination systématique. Bon, ce n'est pas le point de vue que je prendrai, mais vous verrez effectivement qu'il ressortira de temps en temps. Et puis, il y a un troisième point de vue, qui est le point de vue qui se veut neutre et objectif de l'économiste, et en particulier de l'économiste libéral, qui dit, eh bien voilà, nous sommes dans une société industrielle où nous produisons, et il y a d'autre part une société qui consomme, et tout le problème, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qui est consommé corresponde à ce qui est produit ou inversement. Et donc, pour lui, la publicité, pour l'économiste, est un moyen de régulation entre l'offre et la demande, faire en sorte que ça fonctionne, sans se douter que, bien entendu, le pouvoir est aux mains de ceux qui produisent et qui vont essayer de conformer ceux qui consomment aux nécessités, aux normes et aux idées de ceux qui produisent, quand bien même ils donnent le sentiment de ne faire que refléter les idées ou les aspirations de la société à laquelle ils s'adressent. Et puis il y a un quatrième point de vue, je le garde pour la fin puisque c'est le mien qui est aussi le vôtre, c'est de simplement considérer que nous sommes des citoyens qui, au cours de la journée, entendons un discours pratiquement perpétuel qui vient d'un peu partout et qui nous vante des marchandises et qui nous les vante avec un certain nombre de formules, de rhétoriques, d'images, lesquelles images nous séduisent ou ne nous séduisent pas, mais en tout cas sont faites pour nous pénétrer. Donc nous sommes en face finalement de ce qu'on peut appeler au sens large un discours qui veut nous faire agir, un discours qui veut nous faire penser, et c'est-à-dire ce qu'on appelle une idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? Eh bien, c'est un discours qui essaye de vous présenter une certaine vision du monde, une certaine vision de la vie, et qui vous présente en même temps la manière de vivre, le mode d'emploi de la vie, et c'est ce que fait la publicité en permanence. Elle vous donne une certaine vision de la vie, axée sur la marchandise et la consommation, et un mode de comportement qui va devoir s'adapter à un mode d'emploi de la vie qui doit devoir s'adapter effectivement à cette vision. Alors, ce discours, naturellement, mérite qu'on y résiste. Si j'ai été conduit à y résister, personnellement, c'est, bon, puisqu'on l'a dit, en tant que professeur de français, bon, humaniste, distingué, disons-le carrément, j'ai été simplement confronté au cours de ma vie de professeur, à des textes qui, de temps en temps, me paraissaient mériter l'admiration, mais le plus souvent, à des textes qui méritaient des analyses critiques, axé sur la façon dont, effectivement, ces discours essayaient d'obtenir l'assentiment. Ceux qui sont encore en cours d'études ont entendu parler des textes argumentatifs qui essayent effectivement de vous faire agir, ou pas seulement, ou alors c'est des mauvais élèves, ça arrive aussi. Bon. Mais effectivement, l'attitude que l'on doit avoir par rapport à un discours qui nous est tenu, qu'il soit un discours cinématographique ou littéraire ou philosophique, ou quel qu'il soit, c'est une attitude de distance critique capable à la fois d'adhésion ou de résistance. Alors, j'ai donc pris la publicité comme discours d'ensemble qui essaye de nous faire agir. Et j'ai trouvé deux choses, que comme toute idéologie, il est contestable dans sa nature même, c'est-à-dire en quoi consiste cette idéologie, que nous dit-elle de la vie, et ensuite, elle est contestable en tant que dominante, c'est-à-dire que quelqu'un a le droit tout à fait d'avoir l'idéologie mercantile ou l'idéologie de la consommation, mais entre le fait d'avoir une idéologie et le fait de la propager et de la promouvoir par un certain nombre de moyens, il y a quelques nuances. Et la publicité, ou le système plutôt publicitaire, car le terme est beaucoup plus juste, est à la fois pernicieux, à mon sens, dans sa nature, par les différentes influences qu'il essaie d'exercer sur nous-mêmes, et pernicieux par sa puissance, c'est-à-dire par les formes de domination qu'il exerce à l'intérieur du public, de la démocratie. Ça va à peu près ? Bon. Je vais donc faire une première partie, qui sera les niveaux d'influence de la publicité, comment elle nous pénètre, et puis une deuxième partie sur les formes de domination, c'est-à-dire comment ce système a-t-il pu prendre une telle importance à tel point que certains finissent par le croire normal, comme si cela avait toujours existé, ce qui n'est pas le cas. Pour la deuxième partie, j'irai peut-être plus vite parce que je risque de m'étendre sur la première, parce qu'elle est assez évidente. Mais enfin, je vous donnerai quand même quelques exemples assez intéressants. Donc, première partie. Dans ma première partie, je vais étudier 5 niveaux d'influence de la publicité. Alors, je les donne très clairement. D'abord, effectivement, la publicité essaye de prescrire des conduites d'achat. C'est le plus simple. Ensuite, des comportements de consommation. C'est autre chose, c'est plus large. Ensuite, bien entendu, elle vous offre, elle vous impose un modèle de bonheur. Ensuite, elle fait entrer en vous-même un schéma de communication, tout à fait contestable, qui est d'ailleurs un schéma d'anticommunication, on le verra à ce moment-là. Et puis, là où c'est le plus subtil et en même temps le plus dangereux, elle essaye de glisser en vous-même, en nous-mêmes, de nous faire adopter un mode de pensée qui précisément consiste à ne pas penser. Donc, à ces 5 niveaux-là, je vais détailler, vous donner quelques exemples, et puis, si possible, vous convaincre ouvertement. Premier niveau, la conduite d'achat. Bon. La publicité va essayer de faire naître en vous-même des désirs ou des besoins. Certains disent, c'est le niveau où on semble le plus libre. Beaucoup de personnes disent, j'achète ce que je veux et je ne veux que ce dont j'ai besoin. Bon, oui, mais personne ne va jusqu'à se demander, mais pourquoi en ai-je besoin ? D'où vient le besoin que j'ai d'acheter ? Et ça, c'est très intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que c'est en permanence que nous sommes soumis à des injonctions d'acheter, de nous procurer de tel ou tel service, de voir tel ou tel spectacle. Donc, en permanence, il y a, chaque jour, une sorte de travail du corps public dès le plus jeune âge, dès l'âge de l'enfant, pour lui dire qu'il faut acheter, que ça va être important, que ça va lui apporter un tas de choses, que tout le monde le fait, parce que c'est ça qui est intéressant, ça se fait. D'ailleurs, il suffit de regarder la télévision pour voir que rituellement, on vous donne des impératifs d'achat. Et puis, si vous regardez l'organisation de la cité, vous apercevez que notre cité est fondée, la temporalité, le temps de l'année est fondée sur des fêtes, des foires, des saisons, des festivités aussi, et qu'à chaque fois, c'est l'occasion de faire des appels à l'achat. Ce qui crée finalement, chez l'individu normal qui a été un peu bombardé par la publicité, une sorte de réflexe. Il faut que j'achète. Là, ce n'est pas moi qui vais vers les vitrines, ce sont les vitrines qui viennent à moi en me disant « achète-moi, lèche-moi ». C'est ça le lèche-vitrine. Donc nous sommes pris. Enfin, il y a un certain nombre d'exemples. Alors, je vais vous donner quelques exemples que j'ai entendus en salle des professeurs, puisque je ne peux pas cacher, effectivement. Il s'agit d'une charmante collègue qui entre en coup de vent dans la salle des profs en disant « Ça fait 3 semaines que je n'ai rien acheté ». Et c'est très intéressant parce qu'il y a là, si vous voulez, comme une sorte de manque que nous éprouvons tous au bout d'un certain temps. Tiens, je ne suis pas sorti pour céder à ce déclic qui fait que j'achète. Et vous savez que dans certaines civilisations américaines, que nous sommes en train de jouer, il y a simplement un plaisir qu'on appelle le shopping. Le shopping, simplement voir des choses qu'on pourrait acheter, même si on les achète pas. Donc entretenir en soi-même cette espèce de fascination vers l'acte d'achat. Bon. J'ai entendu un jour, en passant dans une grande surface, une responsable d'un rayon qui parlait à une autre responsable d'un autre rayon et qui lui disait, c'était peu avant Noël, qu'est-ce que je vais pouvoir leur acheter ? Ils ont tout. Parce qu'effectivement, le piège de l'achat, ce n'est pas simplement de vous dire achetez ceci pour vous, c'est de vous dire achetez ceci pour les autres. Et de cette manière-là, finalement, vous avez le sentiment à la fois de faire plaisir aux autres et vous pouvez céder, satisfaire cette pulsion d'achat qui a été créée en vous, on ne sait pas par qui ni pourquoi. Alors on va dire, mais oui, de tout temps, les gens ont envie de se procurer des choses. Mais entre le désir d'acquérir des objets ou des choses qu'on a plus ou moins méritées, et le fait d'avoir cette espèce d'addiction à la pulsion d'achat qui nous traverse tous plus ou moins, il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Troisième exemple. Ah oui. C'est un copain qui me disait, ma fille est généreuse, elle donnerait sa chemise toutes les semaines, mais toutes les semaines, elle a besoin d'une nouvelle chemise. Bon. Alors moi, j'ai fait aussi des exemples inverses. Un jour, je suis allé dans un magasin pour m'acheter un pantalon. Il m'allait bien. J'ai dit, donnez-moi 4, j'en aurai pour 10 ans. Alors, vous voyez, vous riez. Vous riez parce que c'est un comportement parfaitement... C'est parfaitement anormal. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui achète un pantalon ? Même s'il change de couleur, ça va être le même pendant 10 ans. Qu'est-ce que c'est que cet archaïque, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a là quand même une pulsion qui est assez inquiétante. Alors comment se produit-elle, cette pulsion ? Elle se produit simplement sur le système bien connu du conditionnement pavlovien. Vous avez tous entendu parler de Pavlov. Effectivement, on nous fait saliver régulièrement par des achats possibles avec tous les arguments que je développerai tout à l'heure, à savoir que même si vous avez déjà cet objet parfait, il y a encore quelque chose de mieux que vous pourriez, avec un petit effort supplémentaire, vous procurer. Ça, c'est pour la pulsion d'achat, et encore, je n'ai pas tout dit, mais c'est quand même important de voir que notre liberté est déjà ponctuée par ce besoin d'acheter dès la plus tendre enfance, ce qui illustre d'ailleurs cette phrase de Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, tel est le but de tout conditionnement, faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper, c'est-à-dire la destination du consommateur. Voilà. Il dit quelque part aussi, d'ailleurs, que le meilleur moyen d'acquérir la stabilité sociale, c'est de faire aimer aux gens leur servitude. C'est tout à fait juste, d'ailleurs. Bon. Alors, deuxième niveau, les comportements de consommation. Quelle est la différence ? Eh bien, on vous donne souvent le sentiment, ou les publicitaires vous disent eux-mêmes, que le consommateur a le choix, il est libre, puisque vous avez un certain nombre de marques qui produisent, qui sont concurrentes et qui produisent des produits similaires. Oui, mais justement, si on a le choix entre plusieurs produits, on n'a pas forcément le choix entre la nature des produits. Un beau jour, le jean arrive. Il devient jeune, sympa, décontracté, efficace de porter des jeans. À partir de ce moment-là, le jean n'est plus simplement quelque chose qu'il faut acheter, c'est un comportement, c'est un mode de se vêtir. Bon. J'ai donné l'exemple du jean. Et bon, fille ou garçon, d'où la fameuse mode andro-jean, que vous connaissez tous, bien sûr. Bon. Ça y est, bon. Vous avez la beauté par la grâce des produits de beauté. Toutes les jeunes filles sont belles. Et même ça dure jusqu'à un certain âge. Mais le problème, c'est que la publicité essaye de leur faire croire que cette beauté naturelle ne suffit pas et qu'il va falloir la relever par des produits de beauté. Le pire étant, naturellement, quand on vous dit que le produit de beauté va révéler cette beauté qui était en vous et que vous ne voyez pas. Alors, le problème, bien entendu, c'est que cet argumentaire permanent qui revient finit par persuader la personne qu'il n'y a de beauté que produite. Et c'est la même chose pour des consommations comme des boissons pétillantes et sucrées. Bon, on peut avoir besoin de se désaltérer. On peut avoir besoin d'avoir des boissons tantôt pétillantes, tantôt sucrées. Mais le fait de croire qu'on est obligé en été de boire des sodas pour se désaltérer, ça, c'est un comportement de consommation. Et vous voyez que, toutes publicités confondues, elles ont un effet sur des modes de consommation, des comportements de consommation, qui deviennent même des styles de consommation. Et vous voyez un certain nombre d'objets qui apparaissent, comme le portable. Comment t'as pas de portable? Comme tel film qu'il faut aller voir. Comment t'as pas vu le Titanic? Je n'ai jamais vu le Titanic, enfin je parle du film. Mais quand je disais que je ne l'avais pas vu, on me regardait d'une telle façon que j'avais presque une gueule de naufragé, vous voyez. Je n'avais pas vu le Titanic, alors que les autres en parlaient. C'était clair. Donc vous avez des comportements de consommation qui sont des comportements obligés, avec deux aspects nouveaux. Tout à l'heure, je parlais de conditionnement pavlovien. Là, apparaît une nouvelle arme de la publicité qui est de jouer sur le mimétisme. Il faut vivre ce que vivent les autres, puisqu'on nous persuade que ce qu'on leur fait vivre les rend parfaitement heureux. Et en même temps qu'il y a cet argument, il y a l'argument complémentaire, l'ostracisme vis-à-vis de ceux qui ne suivent pas cette mode. Comment t'as pas de portable? Oui, c'est ça. Alors effectivement, le style de consommation et le niveau d'influence de la publicité au niveau du style de la consommation, c'est quelque chose de très très fort. Puisque par besoin d'être intégré au groupe, par besoin de ne pas être monté du doigt dans les cours de récréation, on est obligé d'avoir tel type de produit, voire même telle marque. Comment tu n'as pas une, etc. Bon, voilà, etc., etc. Donc vous voyez, il y a une pression qui est extraordinaire et qui est ressentie très douloureusement par des gens qui croient devoir alors se donner à eux-mêmes la comédie du désir d'un objet dont ils n'ont pas vraiment besoin, mais parce qu'ils ont peur de se sentir en minorité, minorisés dans le groupe auquel ils appartiennent. Donc ce second degré, le style de la consommation, le comportement de consommation, est un des effets second de la publicité. D'ailleurs, ce qui fait dire au professeur Go, vous savez, ce monsieur qui est spécialisé dans la lutte contre la vitesse excessive ou contre la consommation d'alcool, qui lui fait dire « toute promotion d'un usage est en même temps la promotion d'un abus ». C'est-à-dire que toute publicité, par exemple, de publicité qui met en valeur l'agressivité, la vitesse, la capacité d'être très fort, d'avoir une puissance, etc., toute publicité pour l'usage d'un objet est en même temps quelque chose qui va pousser à son abus. C'est quand même quelque chose de très important, ce pouvoir qu'a la publicité, dans la mesure où elle est toute remplie, dans la mesure même où, très souvent, les publicités, lançant un produit, essayent de vous donner le sentiment qu'il est déjà adopté, choisi par un certain nombre d'autres. Et donc, il faut suivre, bon, au lieu de résister. On pourrait même dire que, d'une certaine façon, tout le langage, enfin, toute l'idéologie médiatique et publicitaire est axée beaucoup plus sur la nécessité d'imiter, de suivre, que de la nécessité de s'opposer. Et elle arrive même, d'ailleurs, lorsqu'il y a des tendances à la différence ou à la rébellion, à phagocyter ces tendances pour les placer dans le domaine de la publicité ou des marques. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon. Troisième niveau, le modèle de bonheur. Alors vous voyez bien le lien, c'est qu'à partir du moment où l'on vous fait adopter des styles de consommation, c'est qu'on veut vous persuader par là même qu'il y a là pour vous un progrès social ou un mode, une, une accession à un bonheur moderne. Alors, le mode de bonheur publicitaire, il est très particulier, et ce n'est pas le mode de bonheur le plus usuel, enfin, le plus au cours des temps. En quoi consiste-t-il? Alors là, il faut regarder les publicités dans leur ensemble et regarder leurs thématiques. Lorsque vous regardez les thématiques des publicités, vous allez vous apercevoir qu'il y a... On m'entend bien quand je m'écarte du métro? Oui, ça va? Bon. Qu'il y a un certain nombre de traits qui reviennent tout le temps. Bon, alors, je vais vous en citer quelques-uns. Bon, par exemple, ça c'est évident, l'association entre la pulsion d'achat et la pulsion sexuelle. Le nombre de produits qui vont être l'occasion d'une supposée satisfaction sexuelle ou d'un pouvoir de séduction sexuelle, etc., est énorme. Bon. Une voiture, par exemple, peut être féminisée et en même temps être l'objet, être un instrument viril de conquête de la femme, par exemple. Bon. Mais pour vous donner un exemple encore plus intéressant, je vais vous lire une vieille publicité qui date, parce que tout ce que je dis est très vieux, mais c'est d'autant plus intemporel que c'est vieux, et donc c'est étonnamment moderne. Bon, enfin bref, je vais vous citer cette petite publicité dont le titre est « L'objet du désir et le désir de l'objet ». Bon. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, dans une revue spécialisée qui s'appelle « Stratégie », donc une revue faite pour et par les publicitaires, il s'agit pour les deux revues Playboy et Lui de demander aux gens, c'est-à-dire aux marques, aux annonceurs, de faire de la publicité dans ces revues. Vous comprenez bien? Alors, comment faire? Je suis Playboy, je suis Lui, pour attirer les annonceurs pour qu'ils fassent de la publicité chez moi. Eh bien, voilà le texte. La volupté inachevée. La possession imaginée. C'est ce que propose Playboy ou Lui, hein, bien sûr. Sont créatrices de tensions naturellement résolues par leur transfert sur ce qui est possible, concret et réel. Les magazines Lui et Playboy, dans lesquels la beauté et le luxe sont à la fois offerts et retenus, dénouent nécessairement les pulsions qu'ils font naître en les détournant vers le contenu publicitaire du support, transformant l'objet du désir en désir de l'objet. Ce jeu de miroir où le rêve et le vécu s'échangent apparaît comme le mécanisme le plus subtil que l'on puisse concevoir pour orienter l'esprit vers l'action, virgule, la consommation, virgule, donc l'achat. Voilà, donc ça c'est un texte qui vous explique très clairement, effectivement, que le fait de sexualiser des produits ou de faire des publicités de certains produits dans des revues un peu porno sur les bords, va faciliter naturellement leur achat. Et vous avez vu d'ailleurs, pour ceux qui aiment le français, cette magnifique cadence et orienter l'esprit vers l'action, la consommation, donc l'achat. C'est vraiment une chute. Bon. Ça, c'était pour illustrer la pulsion sexuelle. Vous en avez une autre, bien entendu, qui est l'apologie du suivisme, ou si vous préférez, le consensus démocratique obligatoire. Nous sommes tous pour...
Le consensus démocratique obligatoire.
Voilà. Nous avons tous adopté le... Dans les publicités, vous trouvez ça, etc. On boit tous le nouveau. Voilà. Donc il y a cette idée, effectivement, qu'il faut absolument suivre pour être heureux. Et naturellement, vous avez beaucoup de campagnes, comme je le disais tout à l'heure, qui prennent l'allure d'un faux événement, mais naturellement partagé par le public. Un troisième élément qui revient très souvent, bien entendu, c'est le nouveau. Voilà, la thématique du nouveau. Le nouvel homo dont a parlé Coluche, bien entendu, mais le nouveau, quel qu'il soit. Vous avez non seulement une apologie du nouveau, mais ce qui va dans le même ordre, c'est le rejet de ce qui est vieux. C'est la même chose. Acheter le nouveau, ça veut dire jeter ce qui est vieux ou qui est ancien, même si ça n'est pas complètement usé. Donc vous voyez là que l'apologie du nouveau devient une valeur, un trait idéologique, essentiel naturellement dans la publicité. Vous en avez une quatrième qui est le devoir de plaisir, pas simplement le plaisir, le devoir de plaisir. Il faut jouir. Il faut jouir comme les classes supérieures. Il faut jouir parce que les classes inférieures, laborieuses, sont encore pénétrées de la nécessité de mériter, alors que les classes supérieures, elles, jouissent avec beaucoup de liberté. Et donc, il y a, dans l'apologie de la jouissance, du devoir de plaisir, comme une sorte de, d'idée de récupération de l'ascensionnite sociale. Si vous voulez vraiment vous accéder à un statut supérieur, eh bien, il faut apprendre à jouir comme jouit la bourgeoisie aisée. Je vous renvoie à ceux qui fréquentent le Fouquet's et que je ne connais pas. Cinquième élément, le fantasme de pouvoir. Dans la plupart des publicités, vous donne le sentiment que vous allez, par tel ou tel objet, développer une capacité de pouvoir qui peut être quasi magique. Il vous suffira d'appuyer sur un bouton pour que tout à coup, aussi bien votre voiture démarre au quart de tour, que votre vaisselle soit faite, etc., etc. Le fantasme de puissance est quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, on oublie très souvent qu'on peut retourner l'expression « pouvoir d'achat » en se rendant compte que beaucoup d'objets sont présentés, sont faits désirer comme en fait des achats de pouvoir. Alors, je vous reparlerai tout à l'heure des 4x4 et de cette publicité de 4x4 qui dit « Écoutez votre âme » et vous verrez qu'effectivement, ce que je dis n'est pas complètement faux. Tous ces éléments que je viens de donner peuvent se retrouver ensemble. Par exemple, vous avez quelque chose qui vous promet de rugir de plaisir. Vous avez un argument qui vous dit aussi le plaisir, c'est de changer de plaisir. Là, c'est l'argument du nouveau. Vous avez un certain nombre de publicités qui, finalement, vont toutes dans le même sens, qui consistent à vous dire, vous allez pouvoir tout voir, tout savoir, tout avoir. Et en fait, c'est cela qui se profile de façon plus ou moins consciente à travers mille et une campagnes publicitaires. Alors, il est évident que ça crée, ou ça tend à créer, un individu qui va être impatient, qui va vouloir le fameux tout de suite qui était réclamé en mai 68, que j'ai connu, et en mai 68, il y avait déjà cette espèce de duplicité entre un désir de liberté et de libération, et en même temps, un désir de liberté qui finissait par être une liberté aliénée au tout de suite. Car on ne peut pas avoir le tout de suite. C'est impossible, car le tout n'est jamais dans l'instant. Bah oui. Tous ces éléments-là, dont le fantasme de puissance dont je viens de parler, n'empêche pas qu'il y a un trait dominant dans les publicités qui est simplement le culte du produit. De ce point de vue-là, la publicité est devenue effectivement la rivale de la religion, puisque le culte de la religion pouvait être le créateur ou une certaine spiritualité. Le culte de la publicité, c'est le produit. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui permet tout. Vous avez beaucoup de, et notamment le nouveau produit, vous avez beaucoup de spots publicitaires qui sont fondés sur le thème « Avant, j'étais dans la merde. Maintenant, j'ai trouvé la solution. » Que ce soit pour nettoyer vos WC, pour vous assurer une voiture fiable, pour etc., etc. Donc, vous voyez, directement et indirectement, le produit est toujours l'objet d'un culte. Mais ce qui devient un petit peu embêtant, c'est que, puisque les publicités associent n'importe quoi, comme je le dirai tout à l'heure, le produit n'apporte pas simplement des solutions aux problèmes d'ordre, de l'ordre de la consommation, aux problèmes des produits. Et ils apportent bien autre chose. D'abord, ils vous apportent un certain nombre de valeurs qui sont la vie, la vraie, qui sont l'intelligence. Pharmaton, Maximois, qui sont la transgression aussi. Je vais vous donner des exemples de tout ceci. Qui sont l'événement. Les produits vous apportent tout. Exemple. Ah voilà, ça c'était pour le consensus obligatoire. On a tous droit à la performance. Manière de dire qu'on est tous faits sur le même modèle. Bon, enfin bon. Regardez. Là, je dis. J'ai dit l'intelligence. Ah oui. Bon. La plupart des baisers s'achètent au Monoprix. Bon. Donc vous voyez que le produit est quand même très large. La transgression, qui est en même temps la bourse. Et si la bourse profitait à tous ? Récupération du terme du marteau et de la fossile. Voilà. Publicité d'Internet pour un certain nombre, lors de la bulle d'Internet de 2001, etc. La publicité vous apporte la liberté. Valeur, si possible. La liberté, une idée qui est dans l'air. Très intéressant de voir que, alors il s'agit bien entendu de téléphone, mais il s'agit intéressant de voir que la liberté, pour un vieux prof archaïque comme moi, c'est une valeur transcendantale et permanente. Pour le publicitaire, bon, c'est un adjuvant des produits, une idée qui est dans l'air, et puis quand elle ne sera plus dans l'air, qu'est-ce qu'on mettra à la place ? On mettra la dictature, ou bien on mettra l'oligarchie, etc. Enfin bref, la liberté, une idée qui est dans l'air, c'est la meilleure manière de se saisir d'une valeur pour la vider de son sens. Bon. La publicité vous apporte l'idéal, mesdemoiselles, vous allez voir. L'idéal, vous pourriez penser que la publicité va simplement se contenter des produits. Non, elle va vous apporter l'idéal. Alors là, j'ai un vieux truc, là encore, une vieille image. Regardez. Regardez ce qu'on trouve sur une page à gauche. On voit une jeune fille. Regardez cette jeune fille. Elle est plus ou moins dans le blé, non ? Enfin, bref. Et elle tend les mains vers l'idéal. Vous pourriez croire que la Vierge lui apparaît, ou bien, je ne sais pas quoi, Goldorak, enfin, tout ce que vous voulez, bon, etc. Bon. Soif d'idéal. Cette jeune fille ressemble tout à fait à la jeune fille dont je pouvais rêver quand j'avais 15-16 ans, parce qu'à cette époque-là, on rêvait des jeunes filles. Ça a dépassé, bon, etc. D'ailleurs, je l'ai rencontrée, je l'ai épousée, on est toujours ensemble. Bon, enfin, bref. Donc, c'est un détail que je mets ça pour vous dire que je ne parle pas en l'air. Alors, naturellement, vous vous demandez, mais où ? Comment ? Qui ? Quoi ? Alors, vous avez la solution dans la page qui est à côté, fin d'essentiel. Alors, vous remarquez que la soif se transforme en fin. Il y a déjà une sorte de matérialisation du désir. Bon. Et si vous regardez ce qui est écrit, vous lisez. Attendez, il ne faut pas que je montre ça. Envie d'être moi. Envie qu'on pense à mes fins de moi. Envie de m'y retrouver, mais surtout de me retrouver moi. Envie d'être exigeant, sourcilleux, économe, dépensier, si je peux, quand je veux, et surtout envie d'être heureux. Il paraît qu'il y a des endroits où on peut faire tout ça et rester soi, géant. J'ai envie. Enfin, vous voyez le jeu de mots. Alors, vous voyez là ce qu'on appelle une récupération d'une valeur quasi spirituelle par la publicité. Je vais vous en donner une autre. Par exemple, le féminisme. La publicité salue naturellement la Journée internationale de la femme. Voilà, c'est paru dans Le Monde, qui est un journal encore objectif, dit-on, le 8 mars, je ne sais plus comment, ça c'était 2002, mais il y a aussi 2001-2003. Donc une publicité faite par Simone Perel, qui vous montre une jeune femme libérée, sympathique et tout, à qui il ne manque qu'un élément corporel pourtant important, la tête, la femme libérée, c'est le langage, c'est la signification latente et pourtant réelle de la femme libérée et la femme sans tête. Vous voyez ? Bon, donc on récupère le féminisme de cette manière-là. Alors on récupère tout. On récupère essentiellement, bien entendu, l'identité. Les produits, le culte du produit, va vous apporter l'identité. Surtout si vous n'arrivez pas à vous construire vous-même. Alors, voilà quelques exemples. Moi et mon auto, on déteste l'incognito. Donc, identification, voiture, etc. Pharmaton Maximois, voilà, je cherchais ça tout à l'heure. On est tous vaches qui rient. Bon. Je me suis vu dans la redoute. Où est-ce qu'elle est, celle-là, voilà. Là, voilà. Je me suis vu dans la redoute. Ouais, bon. Alors, je continue. Ma crème, c'est tout moi. Moi, je suis obligé de prendre l'accent, hein, parce que vous comprenez que la crème, on ne peut pas dire ça avec un ton glacé et granitique. Bon. Ma Corsa, c'est moi. En Duvernois, je suis moi. Être kick ou rien. Être dim jusqu'au bout. Si t'es pas Gémeaux, tu le deviendras. Reventez-vous la vie. Je suis palmolive. Ça se lit sur mon visage. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du 4-4, écoutez votre âme. Et voilà le classique, bien entendu, de la pensée personnelle offerte à tout. Soyez différent. Pensez Pepsi. Alors, naturellement, je n'ai pas pris les exemples les plus sérieux. Et c'est ce qui vous permet d'en prendre distance. Mais vous voyez effectivement que tout ceci, c'est effectivement la fourniture à l'individu, c'est ça le modèle de bonheur, de l'identité produit. Alors donc la publicité va vous offrir de la même manière le rêve, elle va vous offrir le bonheur total, bon il y a, voilà, et puis elle vous persuade par la même occasion que tout, et tout ce qui justement est rêve, construction de soi, recherche de sens, tout cela vous est fourni par des produits, ce qui, un, vous dispense de le rechercher dans votre vie, et deux, vous conduit à une frustration méga, parce que, bien entendu, aucun des produits qui promettent cela ne tient sa promesse. Autrement dit, par rapport au modèle de bonheur que la publicité propose, il y a une frustration que vous allez pouvoir résoudre de deux manières. Ou bien vous dites, je n'y crois plus, je deviens déboulonneur et je proteste en tant que citoyen. Ou bien vous dites, c'est que je n'avais pas le bon produit. Et après, ben voilà, bien sûr. Et à ce moment-là, vous dites, je vais voir si, avec la nouvelle chaîne, avec le bon, etc., je vais enfin trouver le bonheur qui m'était promis et que, effectivement, mes parents n'ont pas eu. Voilà. Deuxième élément, c'est que, en même temps qu'il y a cette frustration, il y a une sorte, par rapport au produit, lorsque ceci se reproduit, c'est le cas de le dire, sur une grande échelle, la frustration devient collective. Quand j'ai publié mon livre sur la publicité, j'avais pris le titre un peu bêtement, un peu plat, Le bonheur conforme, pour le critiquer, et j'aurais dû, en fait, titrer Le malheur conforme. Car en fait, la conformation de soi au langage publicitaire produit une sorte d'état de malheur chronique dont on ne sait pas la cause, mais qui vous rend mécontent de vous-même dans tous les domaines, dans tous les autres domaines de l'existence. Vous voyez que c'est quand même encore un élément qui joue, je ne vous dis pas tout, sur cette aliénation collective, mais elle est quand même extrêmement importante. Alors, on en vient au quatrième élément, le schéma de communication. Lorsque vous regardez les publicités qui prétendent être de la communication, je vous signale que les publicitaires disent qu'ils sont des... Il y en a même, vous avez directeur de la création, directeur de la communication, etc., etc. Communiquer, c'est échanger, mettre en commun avec quelqu'un, ce qui suppose un échange d'informations, un discours et une rectification, enfin, vous connaissez ça, quand vous communiquez, quand vous parlez, etc. Or, la communication publicitaire, un, vous saisit sans vous avoir prévenu n'importe où, c'est en fait pas de la communication, c'est plutôt de la propagande, vous êtes en train de marcher dans les rues, un panneau vous saute aux yeux, vous êtes sur la plage, c'est un avion ou un dirigeable qui, vous êtes devant le poste de télé, c'est encore une publicité qui intervient à l'intérieur d'un film, etc. Donc, effectivement, cette communication force ou viole votre conscience puisqu'elle vous saisit sans vous avoir prévenu. Deux, ne vous laisse jamais répondre. Vous n'avez pas de réponse. La publicité vous adresse tel ou tel message. Il n'y a pas de réponse. Vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas d'accord avec l'image que vous donnez du villageois, je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous présentez telle ou telle profession sociale, etc. » Vous ne pouvez pas le faire. Les publicitaires disent « mais les gens peuvent très bien ne pas acheter le produit. » Ce qui est quand même se moquer des gens. La seule réponse à la publicité, ne pas acheter le produit. Mais quand les mêmes produits, quand les produits font tous des publicités avec des schémas racistes archétypiques qui sont les mêmes, que faut-il faire ? Bon. Troisième élément, dans cette communication, vous apercevez, qui dure quelques secondes, que ce que l'on cherche, ce n'est pas à vous faire comprendre quelque chose, mais à produire un réflexe de bonne conduite ou de mauvaise conduite. La communication publique joue là le réflexe contre la réflexion. Et en particulier, lorsque cette communication est saisie par des institutions qui veulent faire du bien, qui ont décidé de faire du bien, de faire adopter des comportements valables aux gens. J'ai toujours fait remarquer que dans les campagnes humanitaires, on traite les gens en mineurs pour les inviter à se conduire en majeurs, ce qui est une contradiction dans les termes. Et c'est la même chose, bien entendu, dans cet envahissement qui est devenu le marketing politique, qui essaye effectivement de remplacer ce qu'on appelle un programme d'un candidat qui vous dit « voilà ce que je vais faire », enfin, en structurant son discours, par des images ou par des comportements, comme on en voit un certain nombre d'exemples que je ne citerai pas, car je les ai oubliés. Donc ça, c'était pour la communication publicitaire. Donc c'est de l'anti-communication, c'est de la fausse communication, et cela, c'est tout à fait évident. J'en viens quand même à ce que j'allais oublier. Le mode de pensée, vous allez dire, oh, l'œil l'exagère, qu'est-ce qu'il va chercher à la publicité ? Bon, elle s'exprime, c'est tout ce qu'elle fait. Alors, quand même quelques éléments. Je vous en passe beaucoup. Normalement, là, j'ai fait en une demi-heure ce que je fais en trois heures. Bon, enfin bref. La publicité comme mode de pensée. Premièrement, elle encourage le fait de ne pas penser, c'est-à-dire la démission de l'esprit. Exemple. Pourquoi résister quand on a les moyens de se soumettre ? Alors, parce que là, le thème, c'est la résistance. Vous voyez que c'était pas mal. Bon. Tant qu'à subir la publicité, autant l'aimer. Vous savez, c'est presque un message, si vous voulez, d'entente conjugale, ça. Tant qu'à subir votre conjoint, autant l'aimer. Enfin, bon, enfin. Laissez vos sens prendre le pouvoir. Quand les sens prennent le pouvoir, sur qui prennent-ils le pouvoir ? Sinon, sur une tête un peu critique qui ose la conscience. La vérité, c'est bon pour la santé. Bon, alors là, attention, là, ça mérite une explication de texte. Normalement, la vérité, c'est bon en tant que vérité. Point. Dire que la vérité est bonne pour la santé, c'est se moquer. Attendez, vous ne savez pas tout. Je vais vous dire le contexte. Bon. Alors, la vérité, c'est bon pour la santé, est précédée de la phrase suivante. Astroforme 2000, découvrez l'influence des planètes sur votre santé. La vérité, c'est bon pour la santé. Bon, ça n'est qu'un début. Chaque fois que la publicité utilise le mot pensée, parce qu'elle l'utilise, ou le mot esprit, c'est toujours à propos d'un produit. Exemple, l'esprit Shopee. L'esprit Shopee, ça s'appelle Shopee. Shopee Shopping. Bon, esprit Shopee. Enfin bref. D'ailleurs, il y a des idées shopping, etc. Il y a l'association, c'est un oxymore, mais bon, enfin bref, il est répondu. Pense à ce que tu bois. Écoute ta soif. Gloria. Le concentré d'idées. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui trouble ma conférence ? L'esprit bazar. L'esprit frais. L'esprit d'aujourd'hui, Fleury Michon. Je vous ai cité tout à l'heure, soyez différents, pensez Pepsi. Mais aussi, il y a un slogan qui était pas mal, c'était celui de la Caisse d'Épargne, il y a quelques années. Comprendre les gens, ah, comprendre, je respire en tant qu'intello. Bon, je dis ensuite, comprendre les gens pour comprendre l'argent. Parce que le problème, vous comprenez, c'est pas comprendre les gens pour eux-mêmes. Le problème, c'est d'aller à la logique de l'argent. Comment est-ce que ça fructifie l'argent ? Comment est-ce que je... Comprendre les gens pour comprendre l'argent. Il faut quand même le faire. Ça rime d'ailleurs, vous avez remarqué, la rime. Riche, Jean, argent. Bon. excusez-moi, mademoiselle, qui avait oublié. Je suis en Europe, donc je pense en euros. C'est pas moi ça, c'était la campagne pour l'euro 99-2000. Envoyée à tous les citoyens européens. Je suis en Europe, donc je pense en euros. Alors d'ailleurs, naturellement, il y a une référence culturelle. Je pense, donc je suis. Là, je suis, donc je pense. Et voilà, alors, c'est l'inversion même, naturellement, de toute la dimension spirituelle de l'Europe telle qu'elle aurait dû être avec Descartes, comme, etc. Je suis en Europe, donc je pense en euros. Voilà. Moi, je n'ai toujours pas réussi à penser en euros. Je pense encore en francs. Ça fait mal, hein. Bon. Et la dernière, la dernière, elle est pas mal non plus. Attendez, elle est là, je vais la retrouver. Ah oui, c'est dans un article où on parle des nouveaux concepts en marketing. Il faut convaincre le public qu'il ne s'agit pas simplement de lui faire acheter un produit, mais aussi de lui vendre du sens. Lui vendre du sens. Le sens, c'est un objet qui se vend. C'est dingue. Alors, vous voyez, c'est ça, la façon dont la publicité, en pénétrant dans l'esprit, le formate pour n'en faire plus que quelque chose qui vend. J'ai oublié quelque chose à vous dire quelque chose concernant la communication publicitaire. J'y repense. C'est qu'elle n'est pas simplement effectivement une anticommunication. Elle est aussi un modèle d'expression de soi par l'exhibition. Quand quelqu'un veut parler de soi, il se sent obligé de faire comme les publicitaires et de se vendre comme un produit. Et dès que vous êtes bon en vous exprimant, les gens vous disent « tu te vends bien ». On me l'a dit. Un jour où j'étais invité à Europe 1 en tant que professeur lambda pour parler du bac, vous vous rendez compte? Il y avait d'ailleurs d'Ormesson, deux ou trois journalistes. Bon, j'expliquais ce qu'était le bac et l'intérêt que ça avait et les défauts des types de sujets. Et à la fin, une fois les micros bouclés, un journaliste me dit « Dites donc, vous vous vendez bien ?» C'est fou, hein ? Bon. Mais c'est d'autant plus fou que quand je viens ici, je viens gratuitement. Oui. Alors, moi, je me vends pour rien. Bon, enfin bref. Revenons maintenant à d'autres aspects de la publicité dans la façon dont elle formate la pensée. D'abord, elle insiste sur un point qui est essentiel, c'est la visualisation. La publicité vise l'image de préférence au texte, bien que les deux soient liés. C'est systématique. Et ça fait croire, bien entendu, quand on voit ça dès sa plus tendre enfance, que ce qui est vu est ce qui est vrai. Voir, c'est croire. Il y a une utilisation de l'image par les publicitaires qui consiste à faire croire, par exemple, que les vaches, je ne sais pas moi, donnent naissance à des yaourts qui tombent de leur pie. Vous voyez, par exemple, c'est presque ça, parce que c'est comme ça que c'est fait. Bon. Le rythme en musique, c'est très bien, ça dynamise. Mais trop de rythme, ça finit par essayer d'entraîner dans une cadence dans laquelle la réflexion n'est plus possible. Yankelevitch, qui a fait des études sur la musique, s'étonne en tant que philosophe, il dit « c'est quand même terrible la musique parce que ça essaye de court-circuiter le cérébral, sauf dans certaines musiques, pour vous prendre par le viscéral. » Et donc, effectivement, dans le chaos, si vous voulez, d'un message publicitaire, il y a toujours là le rythme pour essayer de faire en sorte qu'on puisse associer n'importe quoi à n'importe quoi. Et c'est très important parce que derrière le rythme d'une publicité proprement dite, des publicités réunies, des journaux télévisés ou radiophoniques qui sont rythmés, des événements sont rythmés artificiellement, on a le sentiment, on nous crée le sentiment qu'il y a une événementialité constante, une sorte de cadence du monde actuel qu'il faut absolument suivre. Et ça, c'est absolument extraordinaire de voir comment le rythme, qui n'est finalement au départ qu'un élément qui aide à soulever le monde, à être heureux par la musique, devient un élément qui sert à faire marcher en cadence les êtres, et dans la cadence étant celle de la consommation. Et puis, il y a bien entendu, de façon très générale, quand la publicité voit qu'elle ne peut pas se placer sur le terrain de la raison raisonnante, de la raison critique, elle fait appel simplement à la folie, un coup de folie, la déraison, tout cela pour rien, etc., etc. Donc il y a une sorte de logique de la folie cultivée comme telle dans les publicités. Alors je vais vous parler maintenant, et puis après j'arrêterai là-dessus, d'un certain nombre de figures de style qui, utilisées de façon systématique, finissent par abîmer pas mal la logique normale d'un esprit qui pense. Et, attendez, il ne faut pas que je les perde. C'est des publicités de type contradiction et les publicités de type tautologie. Bon, allez, attendez, il faut que je retrouve. J'avais bien préparé ça. Voilà. Quelques petites entorses publicitaires au principe de contradiction, qui est un principe fondamental de la logique. Alors, Canderel, ça ne change rien, et c'est ça qui change tout. Bayard Presse, ça vous change des livres. Le Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie. Cherchez l'erreur. Chopi, la tradition, c'est tendance. La laitière, le fromage blanc de campagne, ce qui est nouveau, c'est qu'il est comme autrefois. Un vêtement de point, la mode de l'authenticité. La campagne CFDT, ceci n'est pas une publicité. Rien à voir, qui plagie bien entendu le « ceci n'est pas une pipe » de Magritte, sauf que lorsque Magritte fait ce dessin qui représente une pipe en écrivant « ceci n'est pas une pipe », il fait simplement remarquer que jamais une représentation n'équivaut à la chose représentée. Et c'est exactement le contraire de ce que font les publicitaires, d'ailleurs. « Ceci n'est pas une pipe », c'est quoi alors ? Ben, c'est la représentation d'une pipe, point. La preuve, on ne peut pas fumer avec. Bon. Alors, ah oui, Palmolive, mais le signe, Palmolive est partout. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et Pampers, même mouillé, comme vous le savez, ils sont secs. Et le pire, c'est que c'est vrai. Enfin bon, d'après l'expérience de mes filles qui ont eu des enfants. Nous, de notre temps, enfin bref. Alors, il y a aussi un certain nombre de tautologies, que je ne sais plus où je les ai mises, qui sont intéressantes, du genre Philips, c'est Philips. Ah oui, voilà. La Super 5, plus 5 que la 5. 205 GTI, plus GTI que jamais. Ford, encore plus Ford. Philips, la lumière qui déborde la lumière. Café grand-mère, noir, c'est noir. Heineken, la bière qui fait aimer la bière. Le journal du dimanche, il est seul parce qu'il est unique. Et puis, bon, voilà, quelques-uns. Il y en a encore quelques. Bon, je n'ai pas tous vous les donner. Mais vous voyez que, quand on les donne comme ça, avec la distance nécessaire, vous vous marrez, ce qui prouve que vous êtes encore relativement désaliéné ou pas encore complètement aliéné. Mais lorsqu'on reçoit ça, dans le métro, à 18h, et que sur toutes les stations, il y a la même phrase, etc., c'est quelque chose à vous décerveler, ou vous déstructurer la cervelle. Voilà. Et effectivement, ça va tout à fait dans le sens contraire de ce que font les nobles enseignants, même retraités, qui essayent de faire penser le monde avec le petit bout de la raison. Voilà le système de publicité avec tous ces niveaux d'influence. Ça veut dire qu'il pénètre profondément en nous-mêmes. Et comme le dit Alain Cardo, on ne peut pas résister contre un système si on ne résiste pas aux complicités que ce système a fait naître en nous-mêmes. Donc, une des premières résistances contre la publicité, c'est de regarder en soi quel est mon besoin, est-il vraiment le mien, quel est mon désir, est-ce qu'il a été manipulé, quelle est ma manière de penser, pourquoi est-ce que je veux m'exprimer sous cette forme exhibitionniste au lieu de m'exprimer naturellement, etc. Enfin bref, il y a un tas de questions qu'on peut se poser sur soi-même pour essayer de se déprendre de cette espèce d'imprégnation lourde du langage publicitaire. Reste à savoir maintenant comment on en est venu là, parce que ça éclaire sur la façon de résister et de résister, alors là, cette fois-ci, de façon externe. Alors pour ça, j'ai un tout autre dossier, parce que j'en ai deux, j'accélère. Ça va au point de vue du temps ? J'ai tâché de tenir en un quart d'heure pour, la reste, hein, pour le reste, ça ira ? Bon, il faut me le dire, parce que bon, ils ont à parler aussi. Alors, en un mot, depuis 30 ans, la publicité a envahi, certains disent ah, elle est de plus en plus présente, mais attention, ça a commencé il y a même 40 ans. Depuis 40 ans, en particulier depuis 68, la publicité est entrée à la télévision, la publicité commerciale, et n'a fait que croître et embellir. Donc, la domination publicitaire vient d'abord de la logique même du système publicitaire, de son impérialisme et de ses moyens, c'est-à-dire de l'argent que les annonceurs mettent dedans. Bon, je ne vous parle pas avec plus de détails de cette expansion, elle est évidente. Mais elle vient aussi, deuxième élément non négligeable, du recul de ceux qui auraient dû résister, à commencer par les politiques, parce que la question est politique. Alors, je vais aller un petit peu vite. Je vais vous citer simplement ce que disait un certain Laurent Fabius, vous voyez à peu près de qui il s'agit, le 23 octobre 1980, c'est-à-dire avant l'élection de Mitterrand. Fabius, si nous gagnons l'élection présidentielle, l'information des consommateurs et des usagers disposera d'un temps égal à celui de la publicité. Bon. Comme vous le savez, en 1983, un certain Mitterrand a fait entrer la publicité sur FR3 qui n'en avait pas encore. Bon. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que en 1985-86, un certain monsieur nommé François Mitterrand a fait introduire a créé la chaîne privée qui s'appelait à ce moment-là la chaîne Berlusconi, chaîne numéro 5, qui ensuite est devenue sous Chirac la TF1. Et Mitterrand a fait ça contre l'avis de ses conseillers. Voilà ce que disait un de ses conseillers, Jean-Denis Bredin, à qui Mitterrand avait demandé un rapport. Faut-il privatiser les chaînes, et en particulier TF1. Il dit dans son rapport, « Rien d'utile n'aurait été fait au nom de la liberté si le résultat d'une libération manquée était le matraquage publicitaire interrompant, façonnant des programmes prévus pour préparer et servir le spot publicitaire. La diffusion systématique de séries étrangères répondant à un modèle uniforme de vie et de pensée, la soumission des programmes et à travers les programmes des citoyens eux-mêmes à une école de la vulgarité et de la bêtise. » Voilà ce qu'écrit un conseiller de Mitterrand en 1985 en le dissuadant de privatiser la télévision. Et ce qu'il écrit décrit tout à fait parfaitement ce qui s'est produit. Alors là, il y a quand même à s'interroger sur le recul des politiques. Alors, le recul des politiques s'explique aussi par le fait, bien entendu, que les publicitaires les ont convaincus qu'avec leurs services, et notamment le marketing, ils allaient pouvoir gagner les élections facilement. Ce qui est en grande partie erroné. Donc, l'impérialisme du système, le recul des politiques, et maintenant la complicité des médias. Je donnerai quatre exemples, puis après je vous laisserai tranquille, mais quand même, ils valent la peine. Télé 7 jours, à l'époque où il était question de privatiser les chaînes de télévision. Télé 7 jours, et j'ai oublié de vous dire une précision, que la privatisation comportait la coupure des films par la publicité. Télé 7 jours, journal quand même connu, grande audience, fait une enquête auprès de ses lecteurs et pose un certain nombre de questions pour savoir s'ils sont pour ou contre. Et je ne vous lis qu'une seule des questions. Et le chapeau qui précède. La publicité est une des ressources financières qui permet à la télévision d'acheter des films. Si vous aviez le choix, quelle solution préféreriez-vous ? Voir un film entrecoupé d'un entracte publicitaire ? Ne pas voir du tout ce film. Voilà. C'est ce qu'on appelle une question ouverte. Bon. Alors écoutez bien, je vais relire. La publicité est une des ressources financières qui permet à la télévision d'acheter des films. C'est un argument. Attendez, là, il y a un lapsus du système. Si vous aviez le choix, quelle solution préféreriez-vous ? Ce « si vous aviez le choix » est extraordinaire en termes de logique. Bon. Eh bien, voici les résultats. Voir un film entrecoupé d'un entracte publicitaire, 46%. Ne pas voir du tout ce film, 41%. À une époque où on croyait que les Français étaient publiphiles, oui, justement. Ce qui est énorme. 41% des gens qui disent « Je préfère ne pas voir de film que de voir un film coupé par la publicité. » Conclusion d'Étienne Moujotte, conclusion qui, naturellement, est en introduction, pour dissuader de lire les questions. Bref, sans être loin de là des fans de la pub à la télé, vous reconnaissez au fond que la publicité est une nécessité pour financer les programmes. C'est-à-dire que le sondage conclut ce que le sondage devait obtenir comme réponse au sondage. Les sondages sont souvent faits finalement, pour faire conclure ce que les promoteurs du sondage ont eu envie de se faire entendre. Deuxième élément, deuxième argumentaire, Le Figaro maintenant. Ah, Le Figaro fait une grande enquête sur les grandes publicités des 20 dernières années. Il fait ça il y a déjà 10 ans. Et voilà ce qu'il dit. Les grandes campagnes publicitaires incarnent leur époque, marquent l'évolution d'un secteur d'activité, mais aussi une rupture avec les conventions et les codes de communication. Ces sagas, donc les grandes campagnes, sont, vous allez voir, l'argument, la publicité et le reflet du public qui va se dessiner. Ces sagas sont l'émanation d'une idée force qui permet d'accéder au statut de vérité collective. Ah ! Et voilà la phrase intéressante. Elle pénètre par effraction l'intimité du public qui, en se les appropriant, les fait entrer dans l'histoire. Et alors, si vous regardez bien cette phrase, elle est exactement conforme à ce qui justifie le viol. Bon. Elle pénètre par effraction l'intimité du public, mettons de la femme, qui, en se les appropriant, les fait entrer dans l'histoire. Qui dit, ben, c'est bien comme ça. Bon, ben, et voilà. C'est extraordinaire de voir, effectivement, la façon dont cet argument est développé, le pseudo-reflet de la société, etc., est traduit ici en une sorte d'oracle. D'ailleurs, il y a un mot un peu plus loin. La publicité fait ainsi figure de témoin, mais les campagnes d'exception vont plus loin jusqu'à gagner le statut d'oracle. Voilà. Autrement dit, la publicité est incontestable parce que, un, elle vous reflète. Si vous avez l'impression qu'elle ne vous reflète pas, c'est parce qu'elle incarne déjà les idées que vous aurez plus tard et que la société s'en. C'est extraordinaire de voir ça. Mais c'est cela qu'on vous dit. Et c'est cela le sophisme de l'inéluctable. Prenons Libération. Libération, qui bien entendu était contre la publicité jusqu'en 1982, tout d'un coup, pour des raisons financières, a accepté la publicité dans ses colonnes. Et non seulement elle l'a acceptée, mais elle l'a fait entrer largement. Ce qui fait que... Comment ? Oui, oui, bon. Alors donc, non seulement elle fait ça, mais Serge Julie introduit les agences publicitaires dans son journal en leur demandant de se présenter en 1996. Et voilà la façon dont il présente cette introduction. Alors, après avoir été pendant près de 10 ans hors du champ de la publicité, Libération depuis 1982 accueille dans ses pages la publicité. Écoutez bien cette définition. Cet univers clairement distinct de l'information qui est notre métier est terriblement contemporain. Il fait partie du monde dans lequel nous sommes plongés. La publicité participe de l'économie de marché en orchestrant des fantasmes furtifs et des petits rêves sociaux. En soufflant l'air du temps, la publicité fait rêver des marques pour mieux vivre, pour mieux vendre les produits qui leur sont apparentés. Et ces mini-rêves délibérément contemporains, ce sont les agences qui les mettent en scène. Nous leur souhaitons bonne fête. Voilà, je vois ce que vous avez entendu là. Ça, c'était Libération, le reniement de Libération. Reste le journal Le Monde. Ah, là, vous allez trouver encore une petite perle intéressante, après quoi je m'arrêterai. Il y a presque une dizaine d'années, la vogue de publicité dite porno-chic, dont Le Monde a publié l'une d'elles, que voici. Et, oh, c'est encore... Et, bien entendu, des lecteurs du Monde de l'époque ont protesté. Comment je vois dans les colonnes, etc. Et le médiateur de l'époque, qui est pourtant quelqu'un de bien, qui s'appelle Robert Solé, a essayé de répondre à la protestation des lecteurs. Et voilà ce qu'il a dit. Ne rêvons pas. Une bonne partie de la publicité joue sur le corps féminin et les rapports ambigus entre les sexes. Écoutez cette phrase. Si la direction de la rédaction devait se prononcer sur chaque image, elle entrerait en conflit permanent avec les annonceurs et finirait par sortir de son rôle. C'est ce que dit un journaliste du Monde. Donc, merci de votre approbation. Mais vous voyez à quel point, effectivement, ce langage illustre effectivement le recul total effectivement du monde des médias par rapport au système publicitaire, à tel point que maintenant, certains journaux sont écrits après la présentation des publicités. Donc, on fait la mise en page des publicités et ensuite, on demande d'écrire des articles qui se glisseront entre les différentes images publicitaires. Il paraît que le Figaro fonctionne comme ça. Alors, effectivement, le journal n'est plus à ce moment-là qu'un support, d'ailleurs, c'est le mot publicitaire, du langage publicitaire, de l'idéologie publicitaire. Voilà donc, j'arrête là parce que je pourrais encore continuer, ce contre quoi nous avons à résister pour nous libérer au plus profond de nous-mêmes. Et maintenant, je laisse peut-être ceux qui font de la critique.
C'est-à-dire que les déboulonneurs, qui est donc une association contre la publicité au niveau national.
C'est un collectif, oui. Alors. Mais si, notre tribune, c'est rien. Mais non, ils sont gentils, ils applaudissent tout.
Voilà, on applaudit François Pruc. Merci. Ça sera déjà ça. Comme ça, tu m'abandonnes.
Non.
Bah déjà, merci beaucoup à...